Le commentateur de football de demain, c'est d'abord un passionné. Il n'a pas forcément fait d'école de journalisme. Il a du style et il n'était peut-être pas né en 98. Ce qui est sûr, c'est que le commentateur de demain, c'est un compétiteur. Il va nous le montrer sur Canal+.
Trouver une nouvelle voie pour le foot, c'est le défi que se lancent Laure Boulot, David Ginola et Hervé Matou dans l'émission Au Micro, ce soir seulement sur Canal+.
Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h04, on est de retour dans les grandes gueules du sport. On est ensemble jusqu'à midi. Profitez bien de votre matinée à l'écoute des grandes gueules du sport. Si vous voulez réagir à cette émission, nous avons évoqué le 15 de France qui affronte l'Italie lors du tournoi Destination. C'est à 16h à suivre en direct en intégralité sur RMC. Craindre l'Italie est juste de la com. C'était notre débat de 9h. N'hésitez pas à composer le 32-16. L'OM doit-il rester caché pour le titre de champion de France? Notre débat de 10h. Je sais que vous êtes nombreux à avoir composé le standard, donc n'hésitez pas. Le 32-16 pour participer à cette émission et venir contredire nos GG. Dans quelques instants, le bras de fer autour du record de LeBron James. Je vais tout vous expliquer dans quelques instants. Et puis 11h30, nous prendrons la direction de Courchevel-Méribel pour les mondiaux de ski, la cérémonie d'ouverture. C'est aujourd'hui, nous rejoindrons nos envoyés spéciaux. Les Bleus ont-ils peur du zéro pointé? Ce sera notre question. Mais tout de suite, les artistes entrent dans l'arène. Ce matin, LeBron James n'est plus qu'à 36 points du mythique record de points de la légende Karim Abdul-Jabbar et ses 38 387 points en carrière. Le compte à rebours est lancé depuis le début de la saison. Nous entrons donc dans le Money Time. La superstar des Lakers peut devenir le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA mardi à Los Angeles contre Oklahoma City, ou alors ce sera jeudi à Milwaukee. Depuis plusieurs jours, les fans s'arrachent les billets pour les prochains matchs des Lakers afin d'assister à tout prix à ce moment historique. Mardi soir, par exemple, un ticket moyen au Staples Center est vendu $300. Aujourd'hui, vous ne trouverez rien à moins de $1000. Bref, la NBA se prépare à l'événement, mais à quel genre d'événement?
Tu sais qu'on dit plus le Staples Center, la cryptoarena.com.
Non, merci. Pour moi, les Lakers, c'est le Staples Center, les Clippers également. Dans le coin gauche, la team, c'est un événement planétaire. Stephen Brun, Simon Dutin.
Bonjour.
Bonsoir. Vous l'avez compris, il est tout seul dans le coin droit. Enfin, tout seul, pas sûr. C'est un événement américain. Pascal Duprat, c'est parti pour le bras de fer des GG.
À votre avis, c'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant?
RMC.
Les grandes gueules du sport.
Le bras de fer GG.
Vraiment, t'es sûr que l'éléphant, il est plus fort que l'hippopotame?
Et je préfère vous le dire tout de go. Je vais rejoindre Pascal Duprat dans la team. C'est un événement.
Bien d'habitude, hein.
Donc, il est tout seul, quoi, Pascal.
Alors, vous êtes nombreux à voter, des milliers à voter sur le compte Twitter des grandes gueules du sport depuis ce matin. On vous a posé cette question pour avoir déjà une tendance. Est-ce que c'est un événement planétaire, un événement américain? Et pour l'instant, nous gagnons avec Pascal, avec 60%, un événement américain. Vous êtes donc derrière Stephen Brun, Simon Dutin pour
défendre. Je vais prendre un café alors.
L'événement planétaire. Donc c'est vous qui commencez pour tenter de renverser cette tendance. Stephen, oui. Événement planétaire, pourquoi?
Pourquoi? Déjà, le basket, c'est plus d'un milliard de pratiquants dans le monde. Deuxième sport collectif le plus populaire sur cette planète. Ensuite, on parle d'un garçon, LeBron James, qui domine la plus grande ligue de sport au monde, la NBA, depuis presque 20 ans. Ce mec-là, il est en tête des ventes de maillots dans le monde depuis 10 ans. Partout où vous allez sur cette planète, le moindre recoin, la moindre petite île, vous allez trouver une personne avec le maillot de LeBron James sur les épaules. LeBron James, c'est pas qu'un simple joueur de basket, c'est aussi une icône du sport mondial. C'est lui qui prend la suite de Michael Jordan dans Space Jam 2. Il a dépassé le cadre de son sport. La NBA, elle est dominée aussi par le monde entier. Tout le monde s'intéresse au basket. Un Serbe double MVP, un Slovène de 23 ans qui marche sur la Ligue, un Grec qui est champion NBA et double MVP, un Franco-Camerounais qui est meilleur score de la NBA cette saison. LeBron James ne va pas dépasser n'importe qui. Il va dépasser le célèbre, le mondialement connu Karim Abdul-Jabbar et son skyhook légendaire. C'est lui. C'est Google, son maillot mythique des Lakers de Los Angeles, ses rôles avec Bruce Lee dans Le Jeu de la Mort et le rôle de copilote dans Y a-t-il un pilote dans l'avion. Je suis certaine d'une chose, les amis, c'est quand LeBron James va dépasser Jabbar, accrochez-vous. Parce que vous allez manger des doubles pages sur le King dans tous les journaux. Et si vous êtes adepte de TF1 et de France 2, les journaux télévisés, vous allez voir les images du King, du numéro 23.
Mais comment se fait-il que ça démarre pas tout de suite?
Bah parce qu'il a pas
un
encore
événement
battu record,
planétaire, ça se prépare.
Il a pas encore
pourquoi
battu
c'est
le
pas
record,
médiatisé.
Il a pas encore
mais
battu
tu me parles, de milliards. Tu me parles de milliards de personnes qui jouent au basket dans le monde. Je ne conteste pas les chiffres que tu avances. Ok. Par contre, moi, je constate tout simplement que ton sport, tu parlais du sport intime que représente le rugby, joué par peu de nations. Moi, je me rends compte, c'est que vous avez, par exemple, en France, qui est une fédération de référence au basket, eh bien, vous avez du mal à téléviser vos matchs.
Okay,
parce que vous avez du mal à trouver du fric. Donc, comment ça se fait?
Okay, moi, j'ai Pascal, je confonds pas le basket français.
Justement, laisse-moi y venir. Parce qu'en fait, en NBA, c'est un sport individuel, sur tapis de sport collectif. Comment se fait-il que les Lakers soient aujourd'hui avec le meilleur joueur du monde, ce que je ne conteste pas, hein. Je respecte au plus haut point LeBron James pour le grand champion, l'immense champion qu'il est. Mais comment se fait-il que dans la conférence Ouest, aujourd'hui, les Lakers soient 13e sur 15, avec le meilleur joueur du monde?
Non.
Parce que c'est un sport individuel. Ils ont oublié de fabriquer une équipe en début de saison. Ils n'avaient plus de fric.
Pascal, je les prends. LeBron James domine le basket depuis 20 ans, mais n'est plus le meilleur joueur de la ligue. Voilà ton erreur.
Mais cela dit, il marque 30 points. Alors ça veut dire tu amènes encore de l'eau. T'es en train de te faire harakiri. Ça veut dire qu'il shoot 4 fois sur 5. Et les autres, c'est des peintres. Ils jouent pas à côté. Le problème, c'est qu'on est là pour construire, pour fabriquer l'événement américain. On est presque à choisir. LeBron James, il choisit ses matchs pour arriver à faire que cet événement, ce record, soit battu dans sa salle, à domicile, à Los Angeles. C'est tout sur du sport,
ça fait 3 mois qu'il met 30 points par match. Il va pas en mettre 60 pour
gagner un
match.
Il est nul ou il est bon, alors? C'est pas le meilleur joueur du monde ou pas, à 30 points?
C'est pas le meilleur joueur de la ligue. Ok.
Et puis la deuxième chose, et ça c'est important, c'est qu'autant tout à l'heure j'étais, comment dire, il est très difficile de par rapport aux skieurs entre Guatchel et Schifrin de pouvoir comment dire estimer la valeur de chacun. Mais pour ce qui est de LeBron James, lui depuis qu'il joue au basket, depuis qu'il accomplit sa 20e saison en NBA, il shoot à 3 points. Karim Abdul-Jabbar, pendant 11 ans, il shootait qu'à 2 points, même s'il shootait de l'engagement. Donc il faudrait retrancher 266 points à LeBron James pour être tout à fait équitable.
Mais qu'est-ce que tu racontes, Pascal?
Tout à fait équitable. Fais un calcul, il a marqué 2200 points à 3 points.
Et alors?
Eh bien,
Jabbar était pivot. Il se contentait de faire des
skylooks. Et puis alors, il shootait pas, même s'il voulait shooter.
Si je veux te retourner ton argument, je pourrais te dire qu'à l'époque où Jabbar, il jouait au tout début de sa carrière, il jouait contre des mecs qui faisaient 1m85 et lui, il faisait 2m16. Donc c'était facile aussi de mettre des points.
Non, mais moi, je suis pas là pour contester, comment dire, la qualité des champions. Je suis pas assez esthète pour ça. J'adore le basket comme tous les sports et j'ai le respect des sportifs. Simplement, comment veux-tu que tu crois qu'il y a beaucoup de monde qui va se lever à 4 plombes du matin pour le voir marquer, enquiller ses 36 points pour battre le record?
T'as une vision française, là, Pascal. Sauf que.
Mais tu me parles que c'est planétaire. Moi, la Coupe du Monde, partout, on regarde la Coupe du Monde de football.
Mais le basket est le sport le plus planétaire qui existe avec le football, Pascal. Il y a des garçons dans d'autres pays où le décalage horaire, ils seront pas aussi conséquents qu'avec la France, qui seront devant leur télé pour voir LeBron James dépasser Karim Abdul-Jabbar. Ne te contente pas de voir ta vision française le match à 4h du matin.
Nando De Colo, c'est pour ça qu'hier, quand tu écrivais Nando De Colo, tu te rends compte qu'il bat le record de points en Euroleague. Ok?
Coupe d'Europe.
Ça fait pas une ligne dans le quotidien du sport en France aujourd'hui.
Il y avait une page complète samedi et le jour du match, il y avait une page complète aussi, Pascal. Alors peut-être que tu captes pas et que t'as pas le numérique pour lire l'équipe.
Oui, un petit encart comme les avis de dessert, un truc poli, quoi, tu vois, pour pas qu'on t'oublie.
Okay.
Mais non, mais le problème, c'est que ça a du mal à percer. Et en faisant d'un sport, collectif, uniquement un sport individuel, bientôt on va compter le nombre de pas que LeBron James a fait pendant la saison. Combien de fois il a changé de slip? Combien de litres de transpiration issus chaque match? Arrêtons.
Il y a eu un match d'un niveau affligeant il y a quelques jours à Paris entre les Pistons et les Bulls.
tout le monde se battait pour être à ce match-là, alors que c'était les Bulls contre les Pistons. Donc me fais pas croire qu'il n'y a pas d'intérêt sur la NBA en France, encore plus.
Il y a un engouement de la jeunesse, ça je le veux bien dire, mais malheureusement on défait un sport collectif en le ramenant à un sport individuel, quoi. C'est ça qui m'ennuie dans cette, comment dire, cet événement qui est surjoué. Voilà, il est surjoué l'événement et il est bien américain pour cela.
Ok, très bien. Je reprends la main. Vous avez compris, on se dispute sur le record de points de LeBron James.
Je comprends bien le médecin chez Pascal. J'ai l'impression que ses pulses là sont montées un peu.
Mais non, 2200 points à 3 points. L'autre, la moitié de sa saison, de sa carrière, il n'a pas tiré à 3 points.
Je reviens sur ce débat. Il pourrait être battu ce record soit à Los Angeles contre Oklahoma City, soit jeudi à Milwaukee. Il n'est plus qu'à 36 points de ce record de Karim Abdul-Jabbar. On se demande si c'est un événement planétaire, un événement américain. Vous l'avez compris, Stephen Brun, Pascal Duprat ne sont pas d'accord. Simon Dutin va défendre la version événement planétaire. On t'écoute.
C'est dur, hein. Je suis en train de m'échauffer sur mon vélo d'appartement là en bord de terrain. C'est dur de rentrer dans un match comme ça. Hein. Mais bon, faut bien y aller. Je pensais pas que ça arriverait un jour. Mais je le dis, voilà, je fais cette déclaration, je suis d'accord avec 100% de ce que vient de dire Stephen Brun, et j'ai quasiment rien à ajouter là. Mon centurion, il est d'une efficacité redoutable, il a bousillé tous les arguments de Pascal, qui refuse déjà de voir lorsqu'il nous vend justement la l'Euroleague et qui n'a pas fait une ligne. Et bien justement, Pascal, c'est effectivement quelque chose qui joue au détriment de la façon dont a été traitée la performance de Nando Docolo, c'est que la NBA, c'est le basket. Pour le monde entier, le basket, c'est la NBA. LeBron James, il domine d'une façon et avec une longévité qui plus est exceptionnelle. C'est d'ailleurs effectivement en partie ce qui peut expliquer qu'il se rapproche de ce record. Demande donc à notre collègue ici, Nicolas Batum, ce qu'il pense des performances de LeBron James. Le jour, il va battre son record de poids. Moi, je te fais le pari que, tu vois, même dans les infos sur France Inter, tu auras un petit mot sur LeBron James qui bat le record de points. Et pourtant, c'est quand même pas leur précaré. Mais c'est un événement planétaire. Effectivement, sa gueule, elle est connue dans le monde entier. Il n'y a pas un pays où les gens ne savent pas qui c'est. Effectivement, LeBron James, c'est un nom qui dépasse le cadre du sport.
Il y a la majeure partie de la population mondiale qui ne sait pas qui c'est.
Dans le monde entier.
Mais si, oui, mais LeBron James, non.
Si, même les gens qui s'intéressent pas au basket, même ma grand-mère, elle sait qui c'est LeBron James. Excuse-moi.
Mamie Dutin, elle sait qui est LeBron James.
Pas sûr. Les copains, je reprends la main.
Tu ne veux pas rentrer dans le truc, toi?
Mais j'arrive dans quelques instants. Déjà, je vous laisse parler. Je vous laisse épuiser les arguments. Et puis moi, j'arrive en seconde lame pour défendre dire, Pascal. Au 32-16, vous êtes nombreux à nous appeler pour nous dire je suis Team Pascal. C'est plus un événement américain. On va accueillir Thomas dans quelques instants. Mais parenthèse.
C'est facile pour les auditeurs qui vous arrangent.
Hein. Judo. Parenthèse. Judo avec le grand slam de Paris. Le premier combat de Teddy Riner. Morgan Mori.
C'est parti pour Teddy Riner face au Bahreïni d'origine russe. Chotchaev, Teddy qui montait dans son judo gi blanc. Énorme ovation de Bercy. Bercy plein à craquer pour le retour du colosse. Il lance en premier mouvement de Jean Bouchimata. Le public rugit. Il pond Teddy Riner en moins d'une minute qui vient de régler son cas à Chotchaev. 29 secondes à l'horloge. Teddy sûr de lui. Il a osé attaquer. C'était l'une de ses craintes. Il a posé les mains. Il a attaqué. Il pond en 29 secondes face à Chotchaev. Rendez-vous au deuxième tour.
Ok, Morgan, je pensais
quand est-ce qu'il rentre en course.
Il est sympa, il savait qu'on avait une émission.
Quand est-ce qu'il rentre grand corps malade? C'est le grand slam.
Ok. je vais faire comme si j'avais rien entendu.
Il est désespérant.
Morgan, une petite question sur les Français depuis ce début hier du grand slam de Paris.
Oui, mais vas-y, quelle question? Parce que c'était un peu ouvert comme question.
Qu'est-ce qui s'est passé hier?
Les lancements, c'est pas ça.
Alors, deux médailles d'or hier. Blandine Pont, en moins de 48 kilos. Médaille d'or aussi pour Priscilla Nieto, 31 ans. Son premier titre à Paris en moins de 57 kilos. Médaille d'argent pour Cédric Revol en moins de 60 kilos et une médaille de bronze. Malgré de grandes douleurs au dos et aux pieds pour Amandine Bouchard. Catégorie moins de 52 kilos et ça a bien commencé ce matin. Il y a des beaux succès, des Français qui battent des gens très forts, ça promet pour la suite de la journée. Je vous tiens au courant, ça se termine très tard tout ça termine à 19h30 ce soir.
Ok, tu veux une question plus fermée. Et toi, ça va, Morgane? Alors attends, on va le faire comme si on était en direct, ok? Je reprends. On va ouvrir, s'il vous plaît, les copains, une petite parenthèse judo, parce qu'il y a le combat de Teddy Riner. On rejoint tout de suite Morgane Maury.
Salut, les
alors,
grandes
Morgane.
Salut,
Morgane.
Ben, ça s'est très bien passé pour voilà. Teddy Riner. Uchimata, 29
ça fonctionne.
Ça fonctionne aussi. Ouais.
Ouais, il est trop fort, ce Morgane Maury. Ça fonctionne, même quand c'est pas anglais, nos questions. Merci en tout cas. Et on te retrouve tout au long de la journée pour évidemment cette belle journée, on l'espère, pour Teddy Riner. Alors, cet événement planétaire ou américain, le record de LeBron James qui va intervenir cette semaine. Thomas est dans la team Pascal. C'est un événement américain. Salut Thomas.
Salut l'équipe.
Tu es devant alors, Simon Dutin et Stephen Brun qui pensent que c'est un événement planétaire. On t'écoute.
Alors, moi, pour moi, ça va être une info planétaire, mais pas un événement planétaire. C'est-à-dire que l'info va être reliée un petit peu partout parce que c'est une info, je suis d'accord. Mais dans mon message à Direct Studio tout à l'heure, ce que je disais au standard, c'est que si demain... Haaland finit meilleur buteur de Premier League. L'info va être relayée partout, mais ça va être une info anglaise. Ça va être un événement anglais, en Angleterre. La NBA, ça se joue aux États-Unis. Donc, fatalement, ça va être un événement américain. C'est là-bas que ça va être, si ça doit être fêté, c'est là-bas que ce sera fêté. Ils vont pas faire quelque chose mondialement, une émission mondiale, retransmise sur toutes les télés mondiales, comme la Coupe du Monde, par exemple. Ce sera pas ça. Donc, ce sera une info mondiale. Mais pas un événement.
Ok, très bien. Stéphane.
En fait, je veux pas vexer Thomas qui a fait l'effort d'appeler le 32-16, mais donc pour trouver
moi,
quelqu'un.
Tu peux y aller, tu me vexeras pas.
Pour trouver quelqu'un qui est d'accord avec vous, vous prenez les auditeurs comme mauvais, en fait. Vous prenez même ceux qui sont
c'est
mauvais.
C'est-à-dire
bah, je sais pas, son argument, c'est une info mondiale et un événement mondial.
Je vais défendre Thomas et je vais défendre Pascal. Je suis totalement d'accord avec lui. C'est-à-dire que je pense que ça va être relayé partout, mais que c'est pas un événement planétaire. Parce que, et tu sais à quel point j'aime la NBA. À quel point, attends, laisse-moi terminer. À quel point j'idolâtre Michael Jordan, je pas particulièrement, j'ai beaucoup d'admiration pour LeBron James, mais c'est pas le joueur qui m'éclate le plus, mais c'est un talent exceptionnel.
C'est une génération, ça.
Ouais, c'est vrai, tu as raison, totalement. Et c'est juste que pour moi, ce qui me gêne un peu, et on parle, c'est vrai, souvent des records en NBA. Pour le coup, celui-là, là où je peux être d'accord avec toi, c'est le record le plus légendaire, celui de Karim Abdul-Jabbar. C'est pas un record, c'est pas j'ai tiré quatre fois des tribunes pour marquer un panier à trois points. C'est un vrai record, ok. Mais pour moi, quelque chose de planétaire, c'est si LeBron James arrive à battre Michael Jordan sur le nombre de bagues. Pour moi, ça, c'est planétaire. Le record de Karim Abdul-Jabbar, autant c'est un événement extraordinaire aux États-Unis, autant chez nous, tu parlais tout à l'heure du journal de TF1 et de France 2, ils vont faire quelque chose. Alors moi, je t'assure, je suis quasiment sûr que ça n'en fait pas une ligne.
Tu penses qu'il n'y a pas une image de LeBron James sur TF1 ou sur France 2
le 13h et le 20h? Ah, je te le signe tout de suite. Ah bah alors tout de suite, sans aucun problème.
Ouais, c'est okay. Bon ça, on parie non?
On parie, ouais. Moi je parie pas avec toi Pascal, parce que s'il faut que je me déplace chez toi pour trouver un resto. Toi par contre, Jean-Christophe Drouet, ok.
On parie quoi?
Bah, ce que tu veux.
Ok, bah un resto, on se fait un resto. On se fait un resto avec Pascal et Simon.
Ah bah j'espère bien.
Et Simon, Simon, tu payes.
Simon est avec moi, donc moi je rince Simon qui est dans mon équipe.
Non, Simon, si c'est vous qui avez raison, nous on paye avec Pascal. Et à l'inverse, Simon, tu penses que ça va faire le JT 13h20?
J'ai dit que ce serait même chez nos confrères du service public à la radio.
Ouais, mais c'est différent, une brève radio. Moi aussi, je suis d'accord. Moi, je te parle de TF1 et France 2,
ok? Par contre, cette histoire d'info mondiale, c'est-à-dire que Tom Brady, c'est pas un événement de la retraite de Tom Brady, c'est juste une info mondiale.
Ah bah, précisément, Tom Brady, on en a parlé sur France Inter, tu vois.
Oui, clairement, oui.
Clairement,
oui. C'est-à-dire que
Thomas est avec nous, c'est un auditeur.
Pendant plusieurs semaines, on va en parler. Et là, le lendemain, vous voulez parier, le lendemain, une fois que le record sera battu, le lendemain, ou deux jours après, on n'en parlera plus.
Bah, mais ça, c'est comme tous les événements.
Un événement mondial, on n'en a pas parlé pendant deux jours. On en a parlé pendant plusieurs semaines.
De quoi ?
On parle de la Coupe du Monde.
La Coupe du Monde,
par exemple. Un événement mondial.
Oui.
La finale de la Coupe du Monde, on en a parlé pendant plusieurs semaines.
Parce que la France était impliquée dans la finale de la Coupe du Monde. Là, qui te dit que dans d'autres pays, ça ne va pas faire 3, 4, 5 jours au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Asie. Vous ne vous rendez pas compte de la folie NBA en Asie. LeBron James, il met un pied sur le territoire asiatique. C'est l'émeute totale. Peut-être que chez nous, mais peut-être que nous ne sommes pas un pays de basket, tout simplement, puisqu'on a un désastre sur l'endo de Colo. on a un dédain sur les Brown James. Nous ne sommes pas un pays de basket. Mais peut-être qu'il y a 300 autres pays dans le monde qui sont fous de NBA. Et nous sommes un petit sport.
Et encore une fois, c'est un sportif qui dépasse le cadre de son sport. Dès qu'il prend la parole sur un sujet de société, et aux États-Unis, sa parole, elle est reprise partout dans le monde. Et il a un poids, une influence. C'est un personnage hors norme qui dépasse le cadre de son sport. Et à ce titre-là, effectivement, le voir arriver au sommet d'une catégorie statistique mythique dans un sport, encore une fois, pratiqué par autant de gens dans le monde, avec son charisme, son nom, son palmarès, oui, c'est un événement mondial. Il marque l'histoire du sport.
Ok, en tout cas, on en reparlera donc cette semaine, soit énormément, comme vous le supposez, soit un petit peu, en tout cas dans les émissions spécialisées du record de LeBron James, si j'ai tout bien résumé. Merci à Thomas d'avoir composé le 32-16 et notre pari est en cours.
Je sais pas quand tu vas bégayer quand Sophie Lepix va dire LeBron James a battu le record de Karim Abdul-Jabbar. Là, ça va te faire mal aux dents.
Alors, franchement, tu sais quoi? Franchement, même le resto, je trouve que c'est pas assez ce qu'on est en train de parier. Tu vois, je serais prêt à parier beaucoup, beaucoup plus.
C'est sûr.
Ouais, je te jure, je suis tellement convaincu que...
Très bien, mais putain, j'ai des contacts à te faire.
C'est le seul truc c'est pour ça qu'on va rester sur le resto. Parfait. Est-ce un événement planétaire, un événement américain? On vous a posé la question. Vous avez été nombreux à voter sur le compte Twitter des Grandes Gueules du Sport. Et malgré vos bons arguments, je dois le dire, Stephen et Simon, la tendance n'a pas bougé. Nous sommes toujours à 60, c'est un événement américain. 40, c'est un événement planétaire. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission. Direction Courchevel-Méribel pour les mondiaux de ski qui débutent aujourd'hui avec la cérémonie d'ouverture. Est-ce qu'on a peur du zéro pointé dans le camp tricolore? Ce sera notre question. On rejoindra nos envoyés spéciaux Arnaud Souk et Sébastien Amier. A tout de suite sur RMC.
RMC, les grandes gueules du sport, 9h30,
Jean-Christophe Drouet.
11h26, on est de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Pascal Dupraz, Simon Dutin, Stephen Brun. Dans une quinzaine de minutes, n'hésitez pas à nous appeler au 32-16. Vous êtes déjà nombreux à nous parler soit de l'Olympique de Marseille, soit du 15 de France, ou ce débat qui a beaucoup fait réagir sur LeBron James, c'est ce record de points en NBA qui va donc être battu la semaine prochaine. Un seul mot d'ordre, vous composez le 32-16. Alors c'est le grand début aujourd'hui des mondiaux de ski avec la cérémonie d'ouverture des mondiaux qui auront lieu en France, à Courchevel et à Méribel. On retrouve nos deux envoyés spéciaux Arnaud Souk et Sébastien Amier. Salut les copains.
Salut les amis.
Salut Arnaud.
On est très heureux évidemment d'être avec vous. Durant plus d'une semaine, nous allons vous accompagner. Vous allez nous accompagner pour comprendre évidemment ces mondiaux de ski, pour savoir évidemment si les Bleus sont en mesure de décrocher la plus haute marche du podium. Arnaud, pour l'instant, c'est vrai, et on le répète depuis plusieurs semaines, les Bleus ne nous rassurent pas franchement.
Oui, c'est le cas de le dire, hein, les performances de l'équipe de France n'ont pas complètement rassuré les observateurs les plus avisés du ski alpin en hiver, avec seulement 6 podiums, dont une victoire, celle de Clément Noël à Schladming. Alors en guise d'explication, plusieurs facteurs, la jeune génération peine à éclore, certains outsiders comme Mufa Jandé, Bellé ou Favreau sont blessés alors qu'ils montaient en puissance. Quant aux valeurs sûres, Alexis Pinturo ou Tessa Worley, elles n'ont pas apporté toutes les garanties attendues en l'état. Alors oui, Fabien Saguez, le président de la Fédération Française de Ski, ose imaginer la petite, toute petite éventualité de repartir Fanny de cette quinzaine savoyarde, mais attend un état d'esprit irréprochable de ses troupes.
La possibilité du zéro existe, mais c'est pas le problème. En fait, ça, on l'assumera, et moi, je l'assumerai. Je prendrai ce qu'il y a à prendre. On sait qu'on est un peu plus en difficulté cette année, il faut quand même être cash, il faut être clair. Par contre, il y a une chose qui n'est pas une option. C'est le supplément d'âme. On doit capitaliser. On a une ancienne génération qui, effectivement, est sur la fin, il faut le dire. Certains de nos leaders un petit peu moins solides cette année, mais c'est pas grave. Les championnats du monde restent les championnats du monde. Quand on est arrivé à Val d'Isère en 2009, je rappelle qu'on était en grande difficulté. Si vous regardez les résultats, alors effectivement, on fait 3 médailles, mais globalement, le comportement des équipes de France avait été exemplaire. Il n'y avait rien à dire.
Voilà, et du côté de l'encadrement, on espère évidemment un état d'esprit similaire cette année entre le polyvalent Pinturo. Attention, on a eu une information comme quoi il était malade d'ailleurs ce matin. Le slalomeur Clément Noël, les descendeurs Joan Claret et Roman Miradoli ou encore la géantiste Tessa Worley. Les espoirs de médailles sont malgré tout multiples, même s'il faudra faire face aussi à une concurrence étrangère particulièrement affûtée, particulièrement performante cette année, que ce soit Lara Gutberami, la Suissesse, et Michaela Schifrin chez les filles, et Odermatt ou Kilde chez les garçons.
Merci beaucoup Arnaud Souk pour ces précisions. Tu restes avec nous évidemment pour ce débat. Les GG, vous allez devoir trancher. Avez-vous peur du zéro pointé? Oui ou non? Sébastien Amier.
Non.
Simon Dutin.
Non.
Pascal Duprat.
Non.
C'est fou ça. Stephen Brun.
Je sais pas comment on peut dire non. Bah, si je me concentre sur les résultats récents, je suis obligé de dire oui. Ou...
Bah, tu es obligé de dire oui. Ouais. On va prendre déjà Bastoun. Sébastien Amier, tu n'as pas peur du zéro pointé?
Alors non, j'ai pas peur du zéro pointé. Première chose, c'est que ces skieurs français auront la chance de courir leur championnat chez eux, à la maison. Donc c'est aussi un côté positif de la chose. Alors comme on a entendu Arnaud, c'est effectivement, on n'est pas dans une position où on a eu beaucoup de victoires cette année. En tout cas, il y en a une avec Clément Noël. On a eu quelques podiums, on a des athlètes qui seront conquérants, qui vont être parmi les meilleurs skieurs du monde, qui sont parmi les meilleurs skieurs du monde, et ceux-là, ils vont pouvoir faire la médaille. Et ça, c'est indéniable. Je pense qu'on a, alors, comme le dit Fabien, on n'aura peut-être pas 5-6 médailles, non, mais il y aura peut-être 2-3 médailles, ça c'est sûr, parce qu'on a des athlètes qui sont conquérants, aussi bien chez les filles que chez les garçons, Tessa Worley, Roman Miradoli, qui sont les favoris de chez les filles, mais les jeunes peuvent aussi aller chercher quelque chose. Et puis chez les garçons, ben on a nos vieux noms, hein, Johan Claret, voilà, ce sera peut-être ses derniers championnats du monde en France. Et ben c'est tout le mal qu'on lui souhaite pour ouvrir les compteurs dès la première semaine aussi, parce que ce sera important d'ouvrir les compteurs la première semaine pour libérer aussi les autres athlètes, puis la jeune garde qui va ben, tenter leur chance sur cet événement.
À t'écouter, on a l'impression qu'il y a pas mal de méthodes Coué là, des suiveurs du ski alpin français, non?
Oui, mais tu sais, moi, j'ai fait tellement de grands événements. J'ai vu tellement de favoris qui avaient gagné toutes les Coupes du Monde avant et puis qui sont partis sans médaille des championnats du monde ou des Jeux Olympiques. Donc ça, c'est tellement facile de mettre les médailles avant de les faire. Maintenant, nous, on ne met pas les médailles avant de les faire. On a des athlètes en France qui sont capables de faire des médailles. On n'en a pas beaucoup, certes, mais il y en aura.
Ok, Simon Dutin.
Je sais pas, moi j'ai plein de souvenirs de médailles, alors plus de souvenirs aux Jeux Olympiques, forcément ça marque un peu plus, mais qu'on n'attendait pas. En fait, c'est un peu quand même un petit peu notre spécialité. Effectivement, on a eu des champions qui dominaient le circuit de la Coupe du Monde, mais bon, grosso modo, je sais pas, tu repenses à Crétier, même l'année où Bastoun il fait argent, Jean-Pierre Vidal, on le voyait pas remporter le spécial, non, Bastoun, je sais pas, sous ton contrôle, mais bon, je veux dire ça. C'est on a l'habitude, nous Français, de se sublimer quoi, le temps d'une course. En plus, on est à la maison, donc moi, je verrais bien une Tessa Worley, peut-être Miradoli, nous claquer carrément la victoire. Je sais pas, c'est bien français, hein, Johan Claret qui conclurait sa carrière en rinçant tout le monde dans la descente. Mais je sais pas. En tout cas, effectivement, tu as raison de parler effectivement de méthode Coué. On n'a pas envie de finir Fanny à la maison. Pour les mondiaux, mais ce serait bien français, au contraire, justement, une saison où on gagne rien en Coupe du Monde, où on est visiblement à la peine sur un circuit dominé toujours par les mêmes. Je vois bien, effectivement, les Français se sublimer, la course d'un jour, effectivement, et puis si on veut être sûr, on file une paire de skis à Marielle, et puis on l'aligne en géant contre Chiffrine.
On parlait de Marielle Guetschel et de sa déclaration, c'était à 9h30 si vous n'étiez pas avec nous. Stephen Brun, toi c'est oui, t'as peur du 0.1?
Écoute, moi je suis un mec de chiffres. Je suis un mec de chiffres. Pascal me l'a dit avec la NBA, je suis un mec de chiffres, donc je vais rester dans les chiffres. Moi, ça me rassure pas. 28 courses chez les garçons cette saison, 4 podiums, 0 victoire. Chez les filles, 28 courses, 1 podium. On me dit que Clément Noël, il a des chances. Oui, il a des chances, mais il a aussi des chances de pas finir. Tessa Worley, c'est son plus mauvais début de saison. Alors, j'entends la course d'un jour. Sauf que nos leaders sont pas au niveau. On a peut-être des chances de faire des médailles, mais il faut aussi se mettre dans la tête qu'il y a une possibilité de déterminer Fanny. Donc il faut aussi l'envisager, ça. Mais t'as quoi comme garantie, en fait? Parce que la confiance, tu l'as pas engrangée sur les courses précédentes, ça veut dire que tu vas tout miser sur une course, sur un miracle où t'as pas de repère. Alors oui, c'est déjà arrivé par le passé, je souhaite que ça arrive, mais si on fait zéro au pointé, je suis pas surpris, je vous l'annonce, hein, quand même.
Vas-y, Pascal.
Je voulais dire heureusement que t'es pas le président de la Fédération française de ski, hein. Parce que c'est sûr que si tu balances ce discours-là,
moi, j'avais pas candidaté
avant les championnats du monde. Donc, non, franchement, moi j'ai beaucoup aimé le discours du président. Il dit qu'il faudra un supplément d'âme. Et je t'invite à travailler Stéphane, sur la loi de l'attraction. C'est-à-dire se dire que c'est possible. Et pourquoi c'est possible? Parce que nous avons de réels champions qui ne gassent pas beaucoup, et Bastou ne va pas me contredire, ne gassent pas beaucoup cette saison, mais qui sont quand même des valeurs sûres du ski mondial. Donc, en plus, chez nous, dans notre beau pays de Savoie, je vois pas pourquoi Pintu, je vois pas pourquoi Tessa, et je vois pas pourquoi Clément Noël ou Johan Claret ferait pas des miracles. Voilà. Sur cette course d'un jour.
Pintu, j'ai pas entendu qu'il était blessé, là, qu'il y avait un problème.
Il est pas blessé.
Non, il a mal à la grippe.
Arnaud Souk.
Petit souci de santé, voilà, qui fait que cet après-midi il ne répondra pas aux médias comme il devait le faire. On rappelle qu'il sera aligné mardi pour sa première course sur le combiné alpin.
Alors c'est marrant ce que tu dis, Pascal, parce que la lecture parfois d'un discours, on le reçoit différemment. Et moi, je recevais ce discours de Fabien Sagaz il y a quelques instants où il dit oui, on n'est pas favori, mais il faudrait un supplément d'âme. Et moi, je le reçois, non mais sans me moquer.
Faudra un miracle.
Il est en train de sortir le parachute pour dire ça sent la raclette.
Non, moi, je l'interprète.
On peut lui reconnaître une qualité, c'est qu'il n'est pas connu pour te raconter des salades. Il a une parole franche, vraie. C'est un mec qui parle avec honnêteté.
Non, on l'aime beaucoup dans cette émission. C'est pas ce que je disais, mais la deuxième lecture, ce que j'avais quand je l'écoutais, je me suis dit oula, ça sent pas bon, quoi. Et lui, il le sent, quoi.
Il va pas arriver en te disant on va se faire rincer, on y va pour rien, on va se faire humilier à la maison. T'imagines le message que t'envoies à tes athlètes. Il est là pour leur donner le peu de confiance qu'on peut raisonnablement leur donner. Il occulte pas les mauvais résultats, mais il y croit, il a raison d'y croire.
Bastoun.
Et Fabien connaît les deux casquettes. Fabien, il a été coureur par le passé, il a été entraîneur de l'équipe féminine, il a été directeur d'ETN et puis en plus président. Et aujourd'hui, il a une analyse qui peut être juste, oui, effectivement, c'est la course d'un jour. La course d'un jour, il y a trois médailles, c'est simple, trois médailles. Donc voilà, il n'y en a que trois qui repartent avec. Le quatrième, même quand tu es quatrième, que tu as été là ce jour-là, on ne retiendra pas ton nom. Et ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que si on prend les résultats depuis le début de saison, si on veut faire des statistiques, si vous prenez la majorité des athlètes qui ont fait des podiums, c'est souvent les mêmes. On prend chez les garçons, c'est Odermatt, Kilde, Bratten. Chez les filles, c'est du Schifrin, c'est du Vlova et c'est du Godia. Donc, et je pourrais en rajouter quelques noms, mais ça fait sur 28 courses, comme tu l'as dit, Steven, ça fait quand même très peu d'athlètes qui sont capables de prendre les miettes à chaque fois. Donc si on imagine que sur ces championnats du monde, on arrive à s'immiscer, nous les skieurs français, parmi ceux-là, eh ben, ce sera déjà une belle victoire aussi. Après, la course d'un jour, ça reste la course d'un jour, vous le savez, on l'a tous fait, on a tous fait du sport de haut niveau aujourd'hui, quand il y a un grand événement, en plus poussé par le public français, ça peut aussi nous transcender.
Arnaud Souk, un point sur Clément Noël, parce que c'est le porte-drapeau et la plus grande chance de médaille pour notre équipe de France. C'est vrai qu'il y a quelques jours, il a remporté sa première victoire. On était tous très heureux. On s'est dit, ça y est, il monte en puissance. Et hier, raconte-nous la course d'hier. On l'a suivi en direct sur RMC. Patatras, il est retombé dans les travers.
Ouais, alors il a continué sa montée en puissance, puisqu'il était aligné donc sur le slalom de Chamonix. Il a remporté la première manche. Il a vraiment skié de manière très brillante en première manche. Il faut quand même le rappeler. Et puis il y a eu cette deuxième manche où, dans son ski caractéristique, j'ai envie de dire, fait de prise de risque, et bien Clément Noël a enfourché. Voilà, c'est quand même la quatrième fois de la saison. C'est vrai que Clément Noël enfourche. Moi, je m'inquiète pas du tout pour Clément Noël. Je vous dis pas qu'il va être champion du monde dans 15 jours, mais je m'inquiète absolument pas pour lui, parce que s'il y en a bien un dont on est sûr que le ski est là, c'est bien Clément Noël. Aujourd'hui, c'est l'un des tout meilleurs slalomeurs de la planète. C'est l'un des 3-4 meilleurs slalomeurs de la planète. On rappelle qu'il est champion olympique, donc la pression des grands événements, il connaît aussi. Voilà, simplement, il faut que toutes les étoiles s'alignent le jour J. Donc, en l'occurrence, ça sera dans deux semaines, le 19 février pour lui. Mais c'est vrai que voilà, Clément Noël aurait peut-être préféré quand même partir aux Mondiaux avec un tout petit peu plus de confiance dans ses bagages.
Sébastien Amier, une course comme ça, la veille du début des Mondiaux, faire une première manche magnifique et sortir au final lors de cette deuxième manche, est-ce que ça trotte forcément dans la tête?
Bien sûr, ça laisse des traces. On peut pas dire le contraire. En plus, t'es en France, t'es à Chamonix. Il avait envie vraiment devant le public français de gagner avec la manière. Donc oui, on peut l'expliquer comme ça. Après, ce qui est plus dur pour les slalomeurs aussi, c'est le dernier jour de course. Tu peux des fois arriver avec zéro pointé et c'est encore plus compliqué parce que cette discipline qui est très aléatoire. Après, dans le cas de Clément, voilà, il nous a montré que par le passé l'année dernière, il était dans le dur avant les Jeux, peut-être encore plus dans le dur que cette année, et puis il a réussi à être champion olympique. Et cette médaille olympique vont aussi le libérer sur un événement comme les championnats du monde, parce que voilà, ça, il sait que c'est aussi l'homme des grands événements, parce qu'il l'a montré par le passé, hein, il avait fait quand même quatrième, même comme si je l'ai dit tout à l'heure, sur ses premiers Jeux, on n'a pas retenu sa place, mais moi je la retiens, parce que c'était ses premiers Jeux tout jeune à 20 ans, et qu'il est arrivé avec ce ski fou dans sa tête, et qu'il avait échoué à 3 centièmes. Donc voilà, il est là, il sera en position de favori, et je pense qu'il va assumer vraiment son statut. Il monte en puissance, le ski est là. Voilà, c'est pas comme s'il n'avait pas le ski. S'il skiait pas, s'il n'était pas capable de skier plus vite que les autres, on pourrait se poser beaucoup de questions. Maintenant, quand il fait son ski, on voit que ça va vite et qu'il est capable de jouer la gagne. Donc je vois pas pourquoi le 19 février, ce serait pas son heure.
Bastoun, est-ce que tu penses sincèrement qu'on peut faire mieux que les 5 podiums qu'on a fait au Mondiaux en 2021?
Non, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué, parce que même on l'a dit, on a des athlètes qui étaient performants en début de saison et qui auraient pu vraiment jouer les médailles. Tous nos blessés à qui on pense, bien sûr. Ceux-là, ils nous manquent. Ils vont nous manquer au tableau des médailles. Mais avec nos athlètes qu'on a, garçons et filles, je pense que ça peut jouer, ça peut rigoler. Il suffit que ça commence bien pour peinture en super combiné. Derrière, ça peut aussi générer cette dynamique d'équipe, cette dynamique aussi individuelle. 5, ça sera compliqué.
Pour Alexis Pinturo déjà, Bastoun.
Oui, oui. Bah,
c'est que pour Alexis Pinturo, si tu commences par une médaille, derrière, t'as quand même encore 3 chances d'en avoir. Alors certes, il est un petit peu moins aérien qu'il ne l'était ces dernières années, mais Alexis Pinturo, à lui seul, si vraiment tout se passe bien, là aussi, si toutes les étoiles s'alignent, on peut avoir du grand Alexis Pinturo, comme on en avait eu d'ailleurs à Cortina d'Ampezzo il y a 2 ans.
Et en plus, le côté positif du super combiné cette année, c'est que c'est un super G. Donc c'est aussi dans cette discipline où il a fait un podium, il a fait une 7e place mais à 3 centièmes du podium, où sur une piste technique où vraiment il peut se montrer vraiment ses capacités et son ski, et ça peut aussi l'aider. Alors on sait qu'en slalom il est un peu en délicatesse, mais sur un combiné il est capable de tout, il est champion du monde dans cette discipline, et ça oui c'est un point important, mais important aussi pour la quinzaine. Okay. Si le combiné homme commence bien, eh ben ça peut vraiment sourire derrière. Et
rapidement, Bastoun, Arnaud, c'est les vacances scolaires, mais bon, même dans ces périodes, il y a plus de Russes et d'Anglais que de Français à Méribel et à Courches. Est-ce qu'il va y avoir du monde, quoi, pour foutre le bazar, encourager les Bleus? Est-ce qu'on attend du public et de l'ambiance, quoi, parce qu'on sait que il y a des pays de ski où c'est un vrai avantage pour les.
On
pour
attend
les
en locaux, moyenne 4000 spectateurs par jour. Après, le public français n'a pas, en tout cas en matière de ski alpin, à démontrer toute sa ferveur. Hein. Alors, on n'est peut-être pas au point des Autrichiens de Kitzbühel ou de Schladming, mais quand même, en général, il y a une belle ferveur pour les courses qui se déroulent en France.
Les grandes dates.
Ouais, tout a été fait aussi par l'organisation. Hein, par Auvergne-Rhône-Alpes, pour que les déplacements soient faits en bus à partir de grandes villes, de Lyon, de Grenoble, de Chambéry, pour amener justement un maximum de personnes sur les sites de course. C'est aussi pour ça que la période scolaire a été décalée à notre première période aussi, hein, pour que, on va dire que la région puisse en profiter plus pleinement. Mais ouais, oui, sur les jours de pointe, je pense qu'il y aura 10, 12 000, peut-être 15 000 sur les descentes le dimanche et le samedi et le dimanche sur les courses de week-end.
Les grandes dates juste de cette semaine pour les mondiaux de ski, Arnaud?
Alors, on va attendre évidemment côté français le combiné pour Alexis Pinturo mardi. On aura également le Super G Dames avec Tessa Worley, Roman Miradoli mercredi. Super G Hommes avec encore Alexis Pinturo. Ça sera jeudi. Et puis, il y aura évidemment la descente messieurs le dimanche 12 février pour la dernière grande course de sa carrière pour Joan Claret. On espère pourquoi pas que le Tignard puisse avoir sa première victoire. On rappelle qu'il a fait deuxième à Kitzbühel il y a quelques jours.
On l'espère aussi, un ami des grandes gueules. Merci beaucoup Arnaud Souk, Sébastien Amy. On vous retrouve tout au long de la journée, la cérémonie d'ouverture. Et donc, c'est mondiaux de ski. Qui vont débuter
à la France.
Je suis avec vous les week-ends, les copains. Je suis jamais en vacances, malheureusement. Je n'ai pas beaucoup de vacances.
De toute façon, tous les journalistes de RMC, vous n'êtes plus là. Vous êtes tous à Los Angeles, non? Pour l'événement.
Pour LeBron James, évidemment. Et son record de points. Bravo, mon cher
content,
Pascal. 11h44. On se retrouve dans quelques instants avec vous, les auditeurs. Vous êtes nombreux à nous appeler le 32-16 pour affronter une GG sur un thème du jour. A tout de suite.
RMC, les grandes gueules du sport, 9h midi.
Jean-Christophe Drouet.
11h46 de retour dans les grandes gueules du sport, toujours avec Pascal Duprat, Stephen Brun, Simon Dutin. À partir de midi, les paris RMC autour notamment de la rencontre Marseille-Nice est à 20h45, comptant pour la 22e journée de Ligue 1. Mais tout de suite, c'est à vous de jouer, les auditeurs. Vous êtes des grandes gueules.
RMC, les grandes gueules du sport, et vous.
Ah, quand on parle de l'OM, justement. J'ai dit allez l'OM, Lucien. Aurélien nous appelle. Salut Aurélien.
Salut à tous, bonjour. Salut.
Merci bonjour, d'être Aurélien. Avec nous. Aurélien, tu veux affronter qui ce matin?
Bah, Stephen, hein, par rapport au débat sur OM-PSG.
Marseille doit-il rester caché? On parlait du titre de champion de France. Aurélien, Stephen t'écoute.
Alors, moi, j'ai entendu ce qu'il a dit. Bon, après, je suis auditeur du Moscato Show. Je sais aussi les pics qui lancent à Eric dès que ça parle des futurs matchs à venir entre l'OM et le PSG. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est Stephen, il a raison sur plusieurs points. On est dépendant des résultats du PSG, ça, c'est sûr. Par contre, il a parlé beaucoup du calendrier de l'OM. Mais il faut voir le calendrier de Paris aussi, là. Il y a les deux confrontations face au Bayern. Dimanche prochain, il y a le déplacement face à Monaco. C'est sûr que nous, l'OM, on doit faire un sans faute. Mais au vu de la forme du PSG, sincèrement, quand tu vois le niveau de jeu déployé, parce que hier, tout le monde s'enflamme, ouais, Hakimi, Messi, gros match. C'était Toulouse, ils ont galéré, ils ont gagné 2-1. Il y a 3 semaines en arrière, ou 4 semaines en arrière, Toulouse, ils venaient au Vélodrome, ils en prenaient 6. C'était exactement la même équipe. Et il y a un détail sur lequel moi, je pense qu'il faudrait quand même accentuer, c'est le fait que, normalement, pas c'est la confrontation Coupe de France, mais la confrontation décisive en championnat, il y aura les 3 qui seront alignés. Je vois pas Galtier faire l'impasse sur ce match. On sait que quand il y a les 3 alignés, c'est le concours de celui qui défendra le moins. Et puis, clairement, on sait que dès que les matchs sont un peu tendus, mentalement, le PSG, s'ils arrivent qu'il y a moins de 5 points d'écart, qu'ils savent que le match est décisif, je prêche pour ma paroisse, évidemment. Mais le PSG, mentalement, c'est quand même très friable. Et là, Stephen, je peux pas dire que t'es pas d'accord avec moi, quand même.
Que le Paris Saint-Germain soit friable mentalement, oui. On l'a vu par le passé que Neymar est capable de disjoncter. Et surtout, face à vous et notre ami cheveux, Guendouzi, qui est très bon pour faire sortir Neymar de ses gonds. Après, tu me parles du calendrier du Paris Saint-Germain. Ça, j'ai quand même l'impression que ça fait 4, 5, 6 ans que Paris Saint-Germain doit gérer ce calendrier-là en étant en lice en Ligue des Champions, en Coupe de France et avant en Coupe de la Ligue à ce moment-là de la saison. Donc c'est pas le calendrier du Paris Saint-Germain qui m'inquiète, c'est plus le niveau du Paris Saint-Germain actuellement et le niveau de l'OM qui est très bon. Maintenant, moi, je peux pas imaginer que le Paris Saint-Germain puisse continuer à jouer à ce niveau-là jusqu'à la fin de saison. Ça ferait trop long. Après, les Marseillais, vous n'êtes pas à l'abri d'un match nul, on l'a vu la semaine dernière, vous faites un match nul au Vélodrome, contre qui, rappelle-moi, contre Monaco.
Monaco.
Partout. Voilà, vous n'êtes pas à l'abri aussi de perdre des points de temps en temps. Donc, cette confrontation contre le PSG, oui, elle est importante. Mais après, il reste des matchs, comme tu l'as dit. Vous surfez sur une dynamique fantastique, mais vous pouvez lâcher des points à droite à gauche. Ça peut arriver. Mais le problème, c'est que ce qui me gêne, c'est que vous n'êtes pas dépendant de vos propres résultats.
Ok. Et ça, tu l'as déjà dit. Vous n'êtes pas forcément. Et ça, sur ce point, vous êtes d'accord. Mais Aurélien croit vraiment aux chances de l'Olympique de Marseille. Merci de nous avoir appelé. Et bon match ce soir face à Nice à 20h45. Philippe nous appelle au 32-16. Ah, bonjour,
match,
Philippe.
Bon match.
Bonjour à tous.
Ah si, pour un supporter. Bonjour. Bon match de ton équipe, évidemment.
Salut, Philou.
Philippe, bonjour. Tu veux affronter qui aujourd'hui?
Pascal Duprat.
Très bien.
À propos de Bernard Laporte.
Ah, vas-y, on t'écoute.
Alors, faut savoir que Bernard Laporte, c'était un voyou qui était à l'école du voyeurisme avec Sarkozy et Balkany. Et maintenant, il a été condamné dans plein d'autres affaires que celle qu'il a été condamné au mois de décembre. Et que l'appel n'est pas suspensif, il est toujours condamné. C'est juste sur la sanction qui peut-être est réduite ou augmentée. Donc, faut savoir que l'image du rugby, mais maintenant, qu'a donné la porte du rugby, c'est vraiment lamentable. Et quand on est au cœur du rugby des villages comme moi, c'est vraiment très difficile à remonter vis-à-vis des parents, vis-à-vis des enfants, de dire que le rugby, ben, c'est un sport de voyous. Et en fait, c'est pas du tout ça. Et je suis vraiment pas d'accord de dire aujourd'hui, Laporte, il est condamné, et ses copains doivent partir du comité, on doit avoir des élections. C'est clair que lui, il voulait contrer tout ce que se faisait avant, entre La Passé, Camus et compagnie. Il a amené de la démocratie, mais maintenant il faut qu'il parte et qu'il tienne compte de l'avis du référendum des clubs qui a rejeté la nomination de Patrick Buisson à plus de 51%.
Philippe, très bonne grande gueule. Notre débat à 10h30, c'était sur cette image. Bernard Laporte, invité par le 15 de France au stage à Cap-Breton, juste avant d'affronter l'Italie, lui qui venait de démissionner de son poste de président de la Fédération française de rugby. Pascal, tu peux répondre à Philippe.
Ouais, bon, après, je me garderai bien de souscrire à ce que tu dis. Je sais pas, moi, si c'est un voyou. Je vais rester très prudent. Je sais que ça a été un personnage important du rugby français. Et moi, je n'ai fait que répondre à une question. C'était sur l'invitation. de la part des membres du staff de Bernard Laporte alors qu'ils étaient en stage à Cap-Breton. Voilà, j'ai simplement développé le fait que l'amitié indéfectible, c'est une vertu qui se perd. Donc aujourd'hui, il est en difficulté. Et moi, ce que je te propose, c'est faire en sorte de faire un référendum pour virer Galtier aussi. Parce qu'il a commis un crime de lèse-majesté en invitant l'ex-président de la Fédération française de rugby au rassemblement de l'équipe de France. Donc milite pour que Galtier se fasse aussi dégager au nom du soutien qu'il affiche à son ancien président.
C'est de la démagogie pure et simple, c'est n'importe quoi. On mélange les choses et c'est pas normal.
De la démagogie? Non, je pense pas que je sois le roi de la démagogie, c'est mal me connaître. Moi je suis factuel, je réponds à une question.
Il a été invité aux frais de la FFR dans un site qui a été complètement privatisé aux frais de la FFR.
Justement,
lui, il n'a plus rien à faire dans le rugby. Il ne doit plus gérer.
Absolument d'accord avec toi. Et d'ailleurs, en troisième point, j'ai soulevé, y a-t-il un pilote dans l'avion?
Philippe, ça t'a choqué, toi, cette image?
On n'a qu'à soumettre des nouvelles élections pour nommer quelqu'un qui gérera la fédération en toute éthique.
D'accord avec toi.
Il y avait Jabbar.
D'accord avec toi sur ce point-là.
Très bien. Philippe, ça t'a choqué, toi, cette image, rapidement, de parce que c'était le fond de notre débat, l'image de Bernard Laporte invité par le 15 de France?
Ah oui, complètement, oui. Il n'a rien à faire dans le rugby aujourd'hui. Même si c'est qu'il va avoir des copains, il pollue l'image du rugby.
Ok, bon, on a compris ton avis en tout cas. Et merci Philippe d'avoir composé le 32-16, une très bonne grande gueule. À bientôt. N'hésite pas à nous rappeler. Alcin nous appelle également. Bonjour Alcin. Alcin, une fois.
Bonjour messieurs. Bonjour messieurs.
Bonjour, merci d'être avec nous. Tu veux affronter qui toi?
Pascal Dufroy, bien sûr.
Ah,
LeBron James.
Sur LeBron James, le record événement planétaire, événement américain, ce record de points détenu par Karim Abdul-Jabbar, c'était notre débat. Pascal, t'écoute.
Bonjour messieurs. Dans tous les cas, déjà, premièrement, Pascal, tu peux pas être d'accord avec tout ce que tu viens d'avancer. Ça, bien sûr que c'est un événement qui est interplanétaire. LeBron James, aujourd'hui, c'est une icône au même titre que Lionel Messi ou que Maradona ou Pelé. Déjà, pour savoir, c'est le sportif américain qui a le plus grand nombre de followers sur les réseaux sociaux. LeBron James, c'est plus qu'une célébrité, c'est plus qu'une star. C'est un phénomène. C'est lui qui a soutenu les derniers présidents américains, à savoir Barack Obama et puis Joe Biden. Il a, en 2020, il a mis en place, il a présidé justement l'association pour inciter les Américains à voter more than a vote. Il crée une école en 2018 pour les enfants qui sont déscolarisés, défavorisés. C'est un joueur incroyable. Il a tous les records de précocité. Il a 4 titres MVP. C'est le même titre que le Ballon d'Or. Aujourd'hui, le basket, la NBA, c'est le deuxième sport après le football. Je te prends un exemple. Tu prends Kylian Mbappé, tu le mets au Stade de France. Tu le mets au Stade de France, tu prends LeBron James, tu le mets au Parc des Princes, tu prends Novak Djokovic, tu le mets au Stade Charletti et tu donnes l'information à tous les Français. Je te promets que le stade qui sera le plus rempli, c'est le stade où il y aura LeBron James. LeBron James, c'est plus qu'un artiste. Moi, j'ai eu l'opportunité d'interviewer Aurélien Tchouaméni dans le cadre de Face aux lecteurs aux Parisiens. Tchouaméni me disait que c'est un très, 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 très grand fan de la NBA. Dès qu'il a un temps libre, ils seront aux États-Unis pour aller regarder les matchs NBA. On a vu récemment avec Kylian Mbappé qui était parti voir le match des Brooklyn Nets. Une fois, Kylian Mbappé a fait une photo avec LeBron James. Antoine Griezmann qui lui met un commentaire sur sa page en lui disant « Purée, mais t'as gagné, t'as trop de chance ». Aujourd'hui, la NBA, c'est un sport, mais extraordinaire après le football.
Ok, Dernier
exemple. C'est comme si Pascal, il a dit tout à l'heure que l'Euroleague, dans De Colo, était meilleur marqueur de la Coupe d'Europe, mais personne s'en préoccupe. Bien sûr, c'est comme si on parle de l'UEFA. Qui se préoccupe de l'UEFA? Si je demande à Pascal les 3 derniers finalistes de l'UEFA, ou 3 derniers vainqueurs, il pourra pas me le dire. Tandis que la Champions League, il pourra me le dire. Voilà, la NBA, c'est la NBA, l'Euroleague, c'est l'Euroleague, tout le monde s'en fiche un peu.
Pascal, réponds.
Sympa, merci Alcin. En fait, donc, je voudrais reprendre mes propos. Je dis tout simplement que c'est un immense champion. Ça, tu peux pas me l'enlever, je le reconnais. Je parle donc de l'événement. L'événement, c'est il va battre le record de points. Donc toi, t'as des renseignements que j'ai pas, parce que interplanétaire, moi je sais pas si Mars Et sur Saturne, les habitants, s'il y en a, ils sont tous devant leur téléviseur. Je sais pas, ça. Voilà. Dans la planète, peut-être, celle qui, dans laquelle nous vivons, peut-être. Donc, c'est un grand produit de marketing. Voilà ce que j'ai dit. Et je dis qu'il aurait fallu pondérer, parce que Karim Abdul-Jabbar, quand il jouait la moitié de sa carrière, eh bien, pendant 11 ans, il a jamais frappé à 3 points. Il n'avait pas la possibilité, ça n'existait pas. Donc je disais qu'il fallait pondérer ce record. Ça ne veut pas dire que LeBron James ne va pas le battre dans 10 matchs, 15 matchs ou 30 matchs si on pondère. Ensuite, je dis ce que je déplore, c'est que on ramène un sport collectif à un individu. Je répète, comment se fait-il qu'aujourd'hui les Lakers, c'est quand même pas une mauvaise équipe de basket, les Lakers soient 13e sur 15 de la conférence Ouest, okay, alors qu'ils ont ce monstre dans leur équipe.
Très bien. Bon, on n'arrivera pas à vous mettre d'accord. En tout cas, événement interplanétaire, planétaire, mondial, régional, départemental, municipal, on ne sait pas. En tout cas, je rappelle qu'il y a un pari en cours. Stephen Brun, Simon Dutin, contre Pascal Duprat et moi-même, on a parié à un resto qu'il n'y aurait pas d'image de LeBron James, soit au JT TF1, soit au JT de France 2.
Pas d'image, okay. Une brève, une news, une image.
Oui, oui, non mais on en parle.
LeBron James, ça voilà. Bat le record, machin.
Exactement, voilà. Le pari est en cours. Vous suivez bien tout ça, les copains. On aura la réponse la semaine prochaine.
Je suis en train d'arriver chez Vera, là.
On tient le pari, messieurs, on tient
le pari. Tu as bien raison et tu vas bien payer. Merci à tous les auditeurs, merci à vous, évidemment, les grandes gueules du sport. Je remercie Pierre Michel à la production, Nicolas Debris à la réalisation et Stephen Brun pour l'addition, évidemment. Salut.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.